Merci d'être fidèle à RFI, 9h en temps universel, 11h à Paris, midi et demi à Téhéran.
Baptiste Coulon.
La présidentielle en Iran, c'est officiel. Deux candidats se qualifient au second tour. Un réformateur et un ultra-conservateur. Nous serons à Téhéran dès le début de ce journal. Élection législative cette fois en France. Le vote a lieu demain en métropole comme en Nouvelle-Calédonie, où il a fallu s'adapter pour organiser le scrutin alors que l'archipel est toujours en proie à des tensions. Nous serons aussi au Sénégal, dans ce journal où l'Assemblée nationale attend toujours le discours de politique générale d'Ousmane Sonko. Et au Festival d'Avignon, la grande fête du théâtre qui s'ouvre aujourd'hui en France. On vous donne le programme de la soirée en fin de journal. Les élections présidentielles en Iran, après les résultats partiels, l'annonce officielle il y a quelques minutes. Deux candidats, un réformateur, surprise de ce scrutin, et un conservateur accèdent au second tour. Les résultats définitifs ont été annoncés par le ministère de l'Intérieur avec plusieurs surprises de taille. À Téhéran, la correspondance de Siavosh Ghazi.
Tout d'abord, la participation se situe autour de 40% sur le taux le plus faible d'une élection présidentielle. Pourtant, le pouvoir et les ténors du camp modéré et réformateur avaient multiplié les appels aux électeurs, mais 60% des Iraniens ont refusé de se rendre aux urnes, signe d'un mécontentement profond dû à la dégradation de la situation économique et la répression du mouvement de protestation qui avait suivi la mort de Mahsa Amini en septembre 2022. Le candidat réformateur Massoud Pezeshkian n'obtient que 40% des voix. En face, le candidat ultra-conservateur arrive en seconde position avec un peu plus de 38% des voix. Si on ajoute à cela les 14% obtenus par le conservateur Mohamed Bayer Ghalibaf, le camp conservateur obtiendrait plus de 53% des voix. On s'oriente donc vers un second tour entre le réformateur Massoud Pezeshkian et l'ultra-conservateur Saïd Jalili. Dans ce cas, le choix des abstentionnistes sera déterminant pour le second tour. Ces prochains jours diront si les réformateurs vont réussir à mobiliser davantage leur électorat traditionnel, mais les choses s'annoncent plutôt difficiles. Siavosh Ghazi, Téhéran RFI.
Et le second tour de cette élection présidentielle iranienne est prévu le 5 juillet prochain. Des bureaux de vote fermés en Iran, des bureaux ouverts depuis 2 heures en Mauritanie. Élection présidentielle aujourd'hui. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président sortant, se représente face à 6 candidats qui promettent une alternance démocratique. On vote dès aujourd'hui en France pour les élections législatives anticipées, en tout cas dans les Antilles à Saint-Pierre-et-Miquelon. Ouverture des bureaux dans moins d'une heure maintenant. Ce sera demain en France métropolitaine. D'ici là, c'est silence radio, plus de tracts et de réunions publiques pour les candidats. Plus d'interviews politiques non plus dans les médias, c'est la règle la veille du scrutin. La Nouvelle-Calédonie aussi s'apprête à voter demain dimanche. Police et gendarmerie seront mobilisés pour sécuriser les opérations. L'archipel est toujours en proie à des tensions importantes. Alors sur place, il a fallu s'adapter. L'organisation du scrutin a été revue. Reportage de Charlotte Manvi.
À la veille du scrutin, toujours pas un panneau électoral en vue dans les rues de Nouméa et pas une affiche de candidat. Comme pour les européennes, il y a 3 semaines, la logistique du scrutin a été réduite au minimum. Alain Boufnèche, directeur de la vie citoyenne de la commune.
Les ateliers municipaux de la ville ont été pillés, brûlés. Plus d'un tiers de la flotte de nos véhicules sont tombés en cendres. Donc on n'a pas aujourd'hui les moyens matériels pour pouvoir mettre en place ces panneaux d'affichage.
À Nouméa et dans les communes de sa banlieue les plus touchées par cette semaine de violence, les bureaux de vote ont été regroupés. Il est en effet toujours difficile de circuler dans de nombreux quartiers où les barrages déblayés la nuit par les forces de l'ordre sont remontés au petit matin. La sécurité sera, elle, renforcée aux abords des bureaux de vote. Louis Lefranc, haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
S'il y avait des éléments individuels ou collectifs qui voulaient s'opposer à l'exercice du droit de vote qu'ont les électeurs calédoniens, eh bien, moi, je prendrai mes responsabilités.
Les Calédoniens de tous bords politiques semblent en tout cas bien avoir l'intention d'aller voter. Depuis lundi, il a fallu installer une tente et des chaises devant le commissariat central pour accueillir tous ceux qui veulent établir une procuration. Et ils sont nombreux. Aucun transport en commun ne fonctionne sur le territoire. Alors Priscilla patiente, car elle ne pourra pas retourner dans son île de Lifou.
Moi, je vote sur Lifou. En ce moment, il n'y a pas d'avion, il n'y a pas de bateau. Ça fait que j'ai fait la procuration pour que les autres sur Lifou y votent.
Aucun parti n'a appelé au boycott des urnes dimanche. Les rassemblements ont toutefois été interdits par le représentant de l'État. Charlotte Manvi, Nouméa. RFI.
Sa mort avait provoqué plusieurs nuits d'émeutes en France un an après la mort de Naël, 17 ans, tué par un tir de policier à Nanterre près de Paris lors d'un contrôle. Un hommage et une marche blanche organisée ce samedi à Nanterre. Elle s'élancera à partir de 14h, heure de Paris, midi, temps universel. Au Sénégal, cela fait plus de 3 mois maintenant qu'Ousmane Sonko est Premier ministre. Mais l'Assemblée nationale attend toujours sa déclaration de politique générale qui prend donc du retard. Hier vendredi, il s'est justifié dans un communiqué. Ce retard est dû, dit-il, à des incohérences dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Le rôle de Premier ministre, supprimé en 2019 par Macky Sall, a été rétabli en 2021 et le règlement, depuis, n'a pas été mis à jour. En attendant, la polémique enfle dans le pays. Les précisions de Juliette Dubois.
Ousmane Sonko explique qu'il ne tiendra sa déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale, je cite, « qu'une fois que la majorité parlementaire aura réinscrit dans le règlement intérieur l'ensemble des dispositions relatives au Premier ministre ». En effet, il explique que ces dispositions ont été abrogées en 2019 avec la suppression du poste de Premier ministre et qu'elles n'ont pas été actualisées depuis la restauration de la fonction en 2021. Si le règlement intérieur n'est pas modifié par les parlementaires d'ici le 15 juillet, Ousmane Sonko annonce qu'il tiendra sa déclaration de politique générale devant une assemblée constituée du peuple sénégalais souverain, de partenaires du Sénégal et d'un jury composé d'universitaires, d'intellectuels et d'acteurs citoyens apolitiques. Les députés d'opposition du groupe Bénobok-Yakar, coalition de l'ancien président Macky Sall, qui sont majoritaires à l'Assemblée nationale, dénoncent un argument fallacieux et des subterfuges grotesques. Ils accusent Ousmane Sonko de défiance vis-à-vis des institutions démocratiques et demandent au président de l'Assemblée nationale de prendre ses responsabilités pour obtenir une date. Juliette Dubois, Dakar, RFI.
Au Kenya, le bilan s'alourdit à 30 morts après la répression des manifestations de mardi. Manifestation d'une partie de la population pour s'opposer à une nouvelle hausse des taxes. Ce dernier bilan est fourni par Human Rights Watch. Pas de bilan en revanche du côté des autorités. En Russie, au moins 5 morts dans une attaque ukrainienne menée avec des drones. Attaque dans la région frontalière de Koursk, c'est ce qu'annonce le gouverneur russe de cette région. C'est aujourd'hui que s'ouvre en France le festival d'Avignon. Ouverture ce soir dans la cour d'honneur du Palais des Papes, comme il se doit, avec un spectacle de la performeuse espagnole Angelica Lidell qui rend hommage au cinéaste suédois Ingmar Bergman. Mais l'ouverture se fait aussi en fin d'après-midi dans un stade de football où le chorégraphe Boris Charmatz mêle près de 200 amateurs et professionnels. Un spectacle gratuit qui s'intitule « Cercle ». Muriel Mahalouf s'est rendue aux répétitions avec Victor Hull.
Essayez des choses.
C'est un spectacle généreux que propose Avignon en cette ouverture du festival à la veille du premier tour des législatives. Gratuit avec près de 200 interprètes.
Il y a des danseurs professionnels évidemment et puis des danseurs amateurs qui viennent vivre une expérience collective aussi face au monde, face à l'adversité, pour être ensemble, se serrer les coudes dans le mouvement. Je trouve que c'est pas mal de lever le poing ensemble. Voilà.
Un spectacle intitulé « Cercle ». Boris Charmatz, chorégraphe.
Est-ce que le cercle, c'est une communauté fermée ? Ou est-ce que c'est un cercle qui peut parler aux gens qui regardent ? Et j'ai l'impression que quand on les voit, ces 200, c'est aussi un cadeau, en fait. Et qu'on aille à la cour d'honneur, qu'on vienne là sur notre terrain de foot, qu'on aille ailleurs, le Festival d'Avignon, c'est typiquement quelque chose où le public, les artistes, évidemment, ensemble, font Avignon. Et c'est ça qui est magnifique, quoi.
Les danseurs courent, s'enlacent, tournent en cercle comme un seul corps.
On fait du sol, on est en l'air, on fait des grands gestes, on fait des pas chassés, des déboulés. Non, vraiment, c'est intense comme expérience.
Un spectacle énergique, une bouffée d'oxygène malgré le contexte tendu de cette semaine d'élection. Muriel Mahalouf, Victor Hull, Avignon, RFI.
L'actualité sport pour refermer ce journal et début aujourd'hui du Tour de France cycliste. Le départ sera donné dans un peu moins de 2 heures et pour la première fois d'Italie, départ de Florence, direction Rimini, toujours en Italie. 200 km et une étape déjà accidentée avec plusieurs cols au programme. Et comme l'année dernière, le Slovène Tadej Pogacar et le Danois Jonas Vingegaard s'imposent comme les grands favoris de cette édition. Mais le sport aujourd'hui, c'est aussi le football, l'Euro de football et les premières huitièmes de finale qui se jouent donc dès aujourd'hui. Suisse-Italie à partir de 16h, temps universel, et Allemagne-Danemark à partir de 19h, temps universel. Match que vous pourrez d'ailleurs suivre en direct et en intégralité sur RFI. Merci d'écouter RFI, presque 11h10, ici à Paris, 2h de moins en temps universel.